Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient comme tous les jours. RFI vous propose de commenter l'actualité. Vous êtes très nombreux ce matin au standard pour commenter la condamnation de Simone Gbagbo. L'ex-première dame de Côte d'Ivoire a été condamnée à 20 ans de prison pour attentat contre l'autorité de l'État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l'ordre public durant les violences post-électorales de 2010-2011. Alors que vous inspire ce verdict alors que le parquet général avait requis, je vous le rappelle, une peine de 10 ans de prison et quelles peuvent être maintenant les conséquences sur le processus de réconciliation. En tout cas, dans le camp Gbagbo, on dénonce un procès purement politique et une justice des vainqueurs. Un numéro de téléphone, 33 9 693 693 70, 09 693 693 70, si vous nous appelez de France. Vos réactions également nombreuses, 400 commentaires sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous avec les journalistes d'RFI, avec nos experts, nos spécialistes que nous contactons pour répondre à toutes vos questions, pour mieux comprendre l'actualité. La première question nous vient du Cameroun. Nous allons à Douala. Bonjour Sorel.
Bonjour Juan. Merci. Un plaisir pour moi de vous avoir sur les antennes, Juan.
Eh bien écoutez, plaisir partagé, Sorel. Merci de votre fidélité. Vous avez une question concernant le vol MH370 de la Malaysian Airlines, disparu il y a maintenant un an.
Oui, Juan. Cela fait un an que le vol MH de la Malaysian Airlines a disparu et nous sommes toujours sans nouvelles de cet appareil. Sur ce sujet, j'avais quelques préoccupations. Mm-hmm. Comment se déroulent les recherches? Première question. Deuxième question. Quelle est aujourd'hui l'hypothèse la plus plausible pour expliquer cette disparition?
Ouais, c'est vrai que à cette heure-ci, nous n'avons encore aucune explication sur la disparition de ce Boeing et sur le sort des 239 personnes qui se trouvaient à bord. Bonjour Gérard Felzer.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes pilote, expert aéronautique. On n'a aucune explication et pourtant, on peut le dire, des moyens colossaux sont mis en place pour essayer de retrouver ce Boeing. Incontestablement, en ce moment et depuis maintenant un an, se déroule la plus vaste opération de recherche jamais organisée pour essayer de retrouver un avion.
Absolument, c'est la plus grande énigme du transport aérien, il n'y en a jamais eu d'autres. On espère que ce sera la dernière, je vais vous expliquer pourquoi. En ce qui concerne les recherches, elles sont déterminées sur un territoire qui est à peu près grande comme la France. Ce sont des drones, des torpilles qui sont à la recherche de masses métalliques sous l'océan et qui n'ont qu'une une autonomie limitée d'une part et d'autre part tirée par des bateaux, mais d'autre part elles ne peuvent détecter que 5 km aux alentours. Donc imaginez faire toute la France avec 5 km de portée, ça va prendre énormément de temps. Et en plus, on peut se poser la question de savoir si les signaux de Inmarsat, qui sont considérés comme fiables, Inmarsat c'est la société de satellites qui a réussi à reconstituer le vol de l'avion, se trouvent bien dans cette zone. Donc on a trois possibilités et trois hypothèses. La première qui est l'incendie à bord, sachant qu'ils transportaient des piles au lithium et que ça peut s'enflammer spontanément. Mais ça n'explique pas le fait qu'ils aient coupé les communications à la frontière avec le Vietnam volontairement, et aussi le radar, c'est-à-dire le transpondeur, volontairement également, parce que dans ces cas-là, on met son masque à oxygène et on lance ce qu'on appelle un message de détresse, un Mayday. La deuxième hypothèse serait le suicide du pilote, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu, ou un acte volontaire du pilote.
Et en même temps, il y a eu une enquête sur la personnalité du pilote et du copilote, et pour l'instant, cette enquête n'a rien révélé de suspect. Donc voilà, c'est une hypothèse qu'on peut exclure d'ores et déjà. Et puis, l'attentat, c'est plausible ou pas, selon vous?
Alors l'attentat, c'est plausible également. Des gens qui ont eu des complicités au sol et dans la compagnie pour pouvoir prendre place à bord avec des armes et rentrer dans le cockpit et forcer l'avion à aller quelque part. Mais ça suppose que derrière, c'est un remake du 11 septembre, c'est-à-dire que des passagers ou l'équipage s'est rebellé, peut-être là il faut trouver une explication, tout le monde est mort et que l'avion continue à voler au pilote automatique pour aller au milieu de nulle part, c'est-à-dire dans l'océan Indien et au large de l'Australie.
Ouais.
Donc ce sont un puzzle d'hypothèses sur lequel on ne peut pas privilégier une hypothèse plutôt qu'une autre.
Gérard Felser, vous disiez en introduction que c'était l'un des plus grands mystères de l'aviation civile, et vous disiez que ce serait certainement le dernier mystère, grand mystère. Pourquoi ?
Oui, parce que j'espère que depuis qu'il est arrivé le Rio-Paris, le vol d'Air France qui s'est crashé en mer, on a mis 2 ans pour retrouver l'avion et les boîtes noires. On avait fait des recommandations à l'époque pour que les avions soient identifiés minute par minute. C'est ce qui semble se décider en ce moment. D'ailleurs, oui. Moi, je trouve ça scandaleux que ça n'ait pas été fait plus tôt. Mais surtout, et là, il n'y a pas question encore en ce moment, qu'on puisse transmettre quelques éléments de la boîte noire, notamment les conversations, pour avoir tout de suite une idée de ce qui s'est passé.
Ouais, et encore bien sûr, Gérard Felser, mais encore faut-il que la batterie du système de localisation des boîtes noires fonctionne, puisqu'on a appris, grâce à un rapport, que le Boeing de la Malaysian Airlines a volé en tout cas pendant plus d'un an sans que cette batterie fonctionne. Elle s'est épuisée, elle n'a jamais été remplacée pendant un an.
Oui, mais là, ça n'a rien à voir, puisque les enregistreurs fonctionnent de toute façon. La batterie, c'est pour identifier une fois que l'avion est crashé, mais si on transmet par satellite les données en temps réel, c'est comme le cloud sur Internet, vous avez sauvegardé vos données.
Effectivement.
Et donc, on peut les récupérer tout de suite.
Ouais,
c'est ça que tout le monde réclame en ce moment, c'est juste une question d'argent.
Rapidement, Sorel, vous aviez une autre question.
Effectivement, Juan, une dernière, Juan. Je voulais savoir, existe-t-il un triangle de Bermude dans cette région du monde, étant donné la récurrence des accidents d'avions ?
Ah, triangle des Bermudes, en deux mots, Gérard Felser, ça peut prêter à sourire comme question. C'est ce vaste triangle dans l'océan Atlantique, Miami, Porto Rico, île des Bermudes. Et effectivement, il y a eu de nombreuses disparitions mystérieuses. On peut dire qu'il existe un triangle des Bermudes dans l'océan Indien, dans cette région de l'Asie ?
Non. Franchement, il n'y a pas plus de triangle des Bermudes d'ailleurs, parce que les accidents qui ont été identifiés n'ont pas été plus nombreux qu'ailleurs. Donc ça fait partie des fantasmes, aussi bien que les Martiens, dont on parle plus depuis qu'on a été sur Mars. Non, franchement, là, il n'y a pas plus de triangle des Bermudes, quel que soit l'endroit dans le monde. Il peut y avoir des perturbations magnétiques, oui, ça c'est vrai, mais qui n'influent pas sur la trajectoire de l'avion.
Merci d'avoir été avec nous, Gérard Felser, pilote, expert aéronautique. Sorel, bonne journée à Douala. Il est 9h18 à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. 33 9 693 693 70. Agnès Rougier du Service France nous rejoint. Bonjour Agnès.
Bonjour Juan.
Alors on commémore aujourd'hui la catastrophe de Fukushima au Japon qui s'est produite il y a 4 ans, le 11 mars 2011. Un accident majeur qui a fait prendre conscience de la dangerosité de l'industrie nucléaire. Olivier nous appelle d'Abidjan, il est en Côte d'Ivoire. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour Monsieur Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Et vous avez justement une question sur le nucléaire et plus précisément sur la plus ancienne centrale nucléaire française, celle de Fessenheim en Alsace.
Oui, effectivement. Alors, lors de la campagne présidentielle de 2012 en France, Monsieur François Hollande a promis de fermer la centrale nucléaire électrique de Fessenheim. Alors, là j'ai 3 questions. Pourquoi jusqu'à ce jour, cette fermeture n'est pas effective ? Quel avenir pour les employés de cette grande centrale en cas de fermeture? Et enfin, quel impact sur le coût et la production d'électricité en France?
Oui, d'autant que 75% de l'électricité en France provient justement du nucléaire. Agnès Rougier, c'est vrai que la fermeture de Fessenheim, c'était un engagement du candidat Hollande. Peut-être pour planter le décor, on peut rappeler brièvement, évidemment, l'histoire de cette centrale.
Oui, Juan, d'abord, rappelons pour commencer que les 2 réacteurs de 900 MW chacun de la centrale de Fessenheim sont construits le long du Grand Canal d'Alsace, et c'est une zone sismique inondable, puisqu'elle est en fait à 9 mètres sous le canal et non loin des frontières allemandes et suisses. Alors depuis sa mise en service le 1er janvier 1978, les antinucléaires, qui sont très nombreux dans les 3 pays, demandent son démantèlement parce qu'ils la qualifient de dangereuse, et une dangerosité qui s'est accrue bien sûr avec l'âge. On constate beaucoup de pannes d'ailleurs qui occasionnent des arrêts temporaires.
Il y a eu des pannes récemment.
Oui, oui, le 1er mars dernier. Mmh. Et il y en avait une 6 mois plus tôt. Mais la centrale est aussi une source d'emploi. Alors localement, bien sûr, les avis sont un peu partagés.
Alors, lors de la campagne, François Hollande s'était engagé à fermer cette centrale avant la fin 2016. On a l'impression que cette promesse, finalement, elle est difficile à tenir.
Oui, oui, oui. Ce n'est pas fait. Et pour 3 raisons au moins. D'abord, des raisons financières. Suite à la catastrophe de Fukushima, l'autorité de sûreté nucléaire a exigé une mise aux normes post-Fukushima de l'ensemble du parc nucléaire français. Et pour cette mise aux normes, ajoutée aux travaux consécutifs à la visite de sûreté effectuée tous les 10 ans, EDF, qui est donc l'exploitant, a dépensé de 321 millions d'euros en 4 ans, quoi, ce qui est énorme. Et il continue à l'heure actuelle à investir comme si la centrale n'allait pas fermer. Alors en cas de fermeture, EDF pourrait demander un fort dédommagement à l'État. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que d'un point de vue législatif, l'État ne peut pas décider de fermer une centrale exploitée par EDF de son propre chef. Il faudrait un article de loi. Un article qu'on attendait d'ailleurs dans la loi de transition énergétique, actuellement en fin de discussion au Parlement, mais il n'y est pas. Pourtant, ça, c'est un engagement qu'avait pris Jean-Marc Ayrault, qui était le Premier ministre
à l'époque,
au début du quinquennat de François Hollande. Il a d'ailleurs créé par décret un poste de délégué interministériel, à la fermeture de Fessenheim.
Et puis l'autre raison, j'imagine, c'est le lobby, très puissant lobby du nucléaire français.
Oui, vous l'avez dit, très très puissant. On en voit les faits à l'heure actuelle sur la loi de transition énergétique, en ce moment en discussion. Les députés avaient fixé un plafonnement de l'énergie nucléaire dans la production d'électricité, ce qui obligeait à fermer une centrale pour en ouvrir une autre. Mais le Sénat, la semaine dernière, a relevé ce seuil pour permettre l'ouverture de nouvelles centrales.
Alors Olivier nous demandait, en cas de fermeture de cette centrale, donc de Fessenheim, qu'est-ce qui est proposé concrètement aux salariés de la centrale.
Pour vous répondre, je vais citer le délégué interministériel actuel qui est Jean-Michel Malherba. Il indique que sur les 1600 à 1700 emplois générés par la centrale, 850 sont des agents EDF qui eux seront redéployés sur d'autres sites sans licenciement. 300 personnes environ sont des sous-traitants, dont une vingtaine pourraient perdre plus de 5% de leur chiffre d'affaires. Ce qui reste correspond aux emplois induits, comme les commerces, et ça touche surtout la commune de Fessenheim elle-même. La reconversion de la centrale nucléaire en un autre type de production d'énergie pourrait créer des emplois. C'est bien ce qu'avancent les antinucléaires. Mais pour anticiper, il faudrait sans attendre que l'État construise un vrai projet de reconversion avec les collectivités locales et les instances internationales.
Olivier, vous nous demandiez également quel serait l'impact de la fermeture de cette centrale sur le prix et la production d'électricité en France. Je le disais tout à l'heure, 75% de l'électricité française est produite grâce à l'atome.
Et oui, ce qui est c'est un problème. Donc d'un point de vue général, on dit souvent que le prix de l'électricité en France est le moins cher d'Europe, ce qui est faux. Nous sommes la 13e place, on est quand même dans le groupe de tête, mais bon, nous sommes 13e sur 35 pays. Au printemps 2014, la Cour des comptes a bien prévenu d'une hausse importante du prix de l'électricité à cause des investissements qui vont être nécessaires pour les centrales nucléaires vieillissantes d'EDF, comme Fessenheim d'ailleurs. Or, le coût de production des 19 centrales françaises a déjà bondi de plus de 20% entre 2010 et 2013, d'où une hausse importante des tarifs d'électricité en 2014. Et si EDF construit de nouveaux réacteurs, la facture va grimper. Pour exemple, l'EPR de Flamanville, dont la construction n'en finit pas. Sa mise en service était prévue en 2017, elle est encore reportée. Le budget initial a été multiplié par 4. Et puis, il faut ajouter les coûts de stockage des déchets nucléaires. Ça, c'est très difficile à anticiper, parce qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose, on expérimente. Donc, les dépenses d'EDF vont augmenter, que ce soit pour prolonger la durée de vie des centrales au-delà des 40 ans, ou pour les démanteler. Et ce sont les consommateurs qui paieront.
Merci beaucoup, Agnès Rougier. Olivier, bonne journée. À Abidjan, merci de votre fidélité. Abidjan, il est 8h24 maintenant. D'autres questions? Aïch, vous êtes au Tchad, bonjour.
Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de la Radio France Internationale et bienvenue à Abéché.
Abéché, à 800 km à l'est de N'Djamena. Vous avez des questions concernant la recherche sur le sida?
Effectivement, Juan. J'ai appris sur les ondes de RFI qu'il y a une équipe scientifique a découvert que les singes sont à l'origine de toutes les souches du VIH-Sida. Alors, je voudrais connaître quels sont les modes de transmission du singe à l'homme. Est-ce que tous les singes sont atteints de ce virus?
Alors, bonne question. C'est vrai qu'on connaît désormais l'origine des quatre souches du VIH1. VIH1 est responsable de la quasi-totalité des cas de sida dans le monde. Alors, c'est une question un peu technique, un peu complexe à comprendre. On va essayer d'être le plus pédagogue possible avec Jean-Michel Molina. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Louis à Paris. On va essayer d'être clair. Il existe plusieurs types de virus du sida. Il y a le VIH1, VIH2. Le VIH1, je le disais à l'instant, est le plus répandu dans le monde. Et ce VIH1 est composé de plusieurs souches, de quatre groupes, hein, c'est ça ?
Tout à fait. Il y a un grand nombre d'espèces, finalement, de virus du sida, qui correspondent toutes, d'ailleurs, à des passages, à des périodes différentes, d'ailleurs, de l'animal à l'homme, et en particulier des primates, des singes.
Et aujourd'hui, on connaît exactement l'origine donc de ces quatre souches. On sait que c'est forcément, ça résulte d'une transmission du singe à l'homme.
Tout à fait. L'infection par le VIH fait partie de ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire un certain nombre de maladies qui sont transmises des animaux à l'homme. On en connaît un grand nombre, comme la grippe, par exemple. Eh bien, l'infection par le virus du sida est également une infection qui a été transmise du monde animal à l'homme.
Et on sait comment le singe, lui, a d'abord été contaminé avant de nous contaminer, nous, les hommes ?
Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore très bien expliquer. En revanche, le mode de transmission du virus du singe à l'homme, là également, il y a un certain nombre de spéculations qui font que les contacts étroits entre les singes et l'homme dans certaines régions d'Afrique expliquent cette transmission, que ce soit par la consommation de ce qu'on appelle la viande de brousse, qui sont finalement pour un certain nombre de personnes vivant dans ces pays une source de protéines importante que de consommer de la viande de singe qui n'est pas toujours bien cuite. Ça peut être également l'occasion de morsures ou de griffures de singes, qui sont également quelquefois des animaux familiers avec lesquels les gens ont l'habitude d'habiter. Donc il y a un certain nombre de situations au cours desquelles il peut y avoir un contact finalement par le sang de ces animaux qui explique probablement la transmission à l'homme.
Ouais. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ces derniers travaux permettent de mieux comprendre l'origine du sida. Aïch nous demandait, est-ce que tous les singes sont atteints par ce virus, sont concernés ?
Alors, il y a différents types de virus qui peuvent également toucher différents types de singes, en fonction des espèces de singes. Un certain nombre de singes peuvent être d'ailleurs porteurs du virus sans être malades, en tout cas pendant un grand nombre d'années. D'autres sont malheureusement atteints également d'une maladie voisine du sida de l'homme. Tous les singes ne sont pas, bien entendu, infectés, mais une proportion importante qui conduit d'ailleurs probablement à la disparition ou à la raréfaction de certaines espèces de singes en Afrique.
Ah, il nous reste 2 minutes. Autre question toujours sur le sida. Julien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Brazzaville, on vous écoute.
Ma question est la suivante concernant le VIH. J'ai suivi sur vos antennes de RFI il y a quelques jours. Un laboratoire américain a trouvé un produit. Une fois injecté, protège contre le VIH pendant 8 mois. Je voudrais savoir premièrement, est-ce que c'est un produit pour la prévention ? Ou pour soigner ?
Alors, on va déjà répondre à cette première question, Jean-Michel Molina. C'est vrai que des chercheurs américains ont découvert, Julien parle de produits, mais la recherche parle de substances contre le sida, qui s'est avérée être efficace pendant des mois sur des singes. Ça veut dire quoi ?
Eh bien, effectivement, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le domaine de la prévention vis-à-vis de l'infection par le virus du sida, on essaye d'utiliser, faute de vaccins aujourd'hui, un certain nombre de médicaments qui pourraient, en étant administrés à des personnes à risque, réduire leur risque de contamination par le virus du sida. Donc il y a un certain nombre de médicaments antiviraux qui sont utilisés d'ailleurs pour le traitement de certaines personnes, qu'on pense pouvoir également utiliser en prévention. Et cette équipe américaine a rapporté également des travaux qui sont à ce jour très préliminaires encore, puisqu'ils ne concernent qu'un petit nombre d'animaux, qui pourraient laisser entendre qu'effectivement certains médicaments administrés de façon régulière pourraient permettre de protéger des personnes à risque contre une contamination par le virus du sida. Et c'est un domaine qui est actuellement en recherche, quelque chose qui est en pleine explosion.
Ouais. À suivre donc, d'ailleurs, l'un des co-découvreurs du virus du sida a salué, je le cite, une avancée conceptuelle considérable dans la lutte contre le sida. Merci beaucoup Jean-Michel Molina d'avoir été en direct avec nous sur RFI.